Je vais vous lire dans Luc 19, la parabole des pièces d'or. Jésus dit encore une parabole. Il était près de Jérusalem et l'on pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses 10 serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or et leur dit « Faites fructifier cet argent jusqu'à ce que je revienne. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent des messagers à sa suite pour dire « Nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. » Il fut cependant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné.
Et la seconde lecture se trouve dans l'Apocalypse, tout au début, chapitre 1, versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et j'aimerais prier, si vous permettez, pour Roger qui va nous apporter son message. Seigneur, que ton esprit l'accompagne. Je veux bénir Roger en ton nom. Je veux bénir tous ceux qui vont écouter, nous tous, autour de nous. Seigneur, que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs et rester dans nos mémoires. Seigneur, conduis Roger par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Notre sujet de ce matin, les deux venues de Jésus. Le roi qui vient, qui est venu, qui reviendra, les deux venues de Jésus. Et c'est vrai que nous sommes dans ce temps d'avant où il y a une attente. Et c'est sûr qu'il y avait une attente chez les sujets de ce roi qui devait venir, le peuple de Dieu, qu'un personnage royal qui était annoncé d'une génération à une autre, proclamé par le prophète, par le poète, reflété par le roi qui était installé là-haut à Jérusalem, qu'il sera allé venir et ça allait être un jour de joie pour tous ceux qui y croyaient. Ça allait tout changer, c'était l'attente. Renversement de l'ordre connu, établi, pour que la justice et la paix enfin soient là sur terre. Et dans l'esprit de chacun, ce serait impossible de louper cet événement, tellement ça devait être spectaculaire, universel. On l'a entendu dans la lecture du psaume 96, où on a parlé de splendeur et de majesté, rayonnant de son être. Et j'aimerais juste rappeler quelques flashs de l'Ancien Testament pour nous mettre à l'esprit comment les gens attendaient cet événement. Cette splendeur qui allait rayonner disait que les peuples qui habitaient dans les ténèbres verra briller une grande lumière. On a entendu parler de puissance et de beauté combinées. Toute chaussure, disait Ésaïe, de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes lors de cette venue pour être consumés. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. La terre entière sera appelée à proclamer sa gloire et le célébrer, tombant par terre devant sa face. Ésaïe a ajouté, il étendra sans fin sa souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Donc l'attente est claire suite à de telles paroles prophétiques. Ce serait une venue triomphante, irrésistible, visible à tout le monde. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe, le père de David, se dressera comme un étendard pour tous les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Même avant l'Avent, il y avait cette attente dans l'air. Et il y avait de quoi? Il y avait ce messager qui allait crier, dégager un chemin pour l'Éternel, niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Et le cri que fait entendre Ésaïe, « Voici votre Dieu vient. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Le roi vient. » Ce qui est remarquable, et Alexandre l'a relevé, c'est que cette attente continuait de génération en génération à travers les siècles. Et l'attente était encore là au moment de la naissance de Jésus de Nazareth. Je rappelle quelques éléments. Son oncle, Zacharie, quand il pouvait à nouveau s'exprimer, l'a dit de la manière suivante. Pour nous, Dieu a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. À la même époque, un homme appelé Siméon n'attendait que ça. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. On est maintenant au temps de la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire quand il prend le bébé dans ses bras? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Il était loin d'être le seul qui attendait. Et il va laisser le soin de répandre la nouvelle à une femme, Anne, qui disait la venue du Sauveur à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. La naissance a eu lieu, fanfare céleste, accueil plus mitigé sur terre. Mais enfin, le roi attendu était là. Ou bien, est-ce que c'était vraiment lui? Parce que si la venue était annoncée ainsi, il y avait une étape totalement insoupçonnée. Et quand ce bébé grandit, ça va démarrer très mal, à Nazareth, là où il a grandi. Parce qu'il va rappeler que Dieu a pris soin d'un général syrien et puis d'une veuve libanaise quand, manifestement, il avait des besoins plus pressants en Israël. C'était pas du tout ça qu'il voulait entendre de ce roi qui venait. C'était mieux quand Jésus, un jour, va nourrir une grande foule. Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira tout seul. On comprend la confusion. Un grand événement irrésistible annoncé à travers toutes les pages de l'Ancien Testament. Mais voilà Hérode qui règne encore en Galilée, Pilate à Jérusalem et les Romains dans le monde entier. Avec sa question, Jean-Baptiste, qui croupit dans une prison, résume bien les bruits qui couraient. Mais finalement, es-tu celui qui devait venir? Ou est-ce qu'on ne devait pas attendre un autre? Par contre, pour les disciples, les choses étaient beaucoup plus claires. Tu es le Messie, va déclarer Pierre, tout confiant. À Jésus d'ajouter, je dois souffrir beaucoup et être mis à mort. Alors, mais c'est pas du tout comme ça que les choses sont censées se passer. Pierre le prend à part. que Dieu t'en préserve, Seigneur. Ça va pas arriver ainsi. Laisse-moi te montrer. Tu n'as pas lu l'histoire du rêve de Nebuchadnezzar, de cette grande statue, tête en or, poitrine, ventre en argent, cuisse en bronze et jambes en fer. Tu n'as pas entendu que tous ces grands royaumes de la terre seront renversés parce qu'une pierre viendra et rendre en poussière tous ces royaumes. Tu sais pas comment les choses vont se passer en réalité. Jacques et Jean ne font pas mieux. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. On comprend bien pourquoi Jésus, sur le point d'être accueilli à Jérusalem dans la plus grande joie, s'arrête pour raconter cette parabole de ce roi qui va partir à un pays lointain pour recevoir la royauté, pour ensuite revenir, et à Matthieu d'ajouter longtemps après. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, diront les deux disciples sur la route d'Emmaüs avec leur invité inconnu. Mais voilà, c'est déjà 3 jours que tout cela s'est tombé à l'eau. J'aimerais, si vous permettez, donner quelques éléments d'explication de tout ça. Et là, on arrive finalement à notre passage dans l'Apocalypse, au premier chapitre, où c'est dit « Je viens bientôt, le temps est proche ». On peut dire « Mais depuis le temps, on connaît ». Mais l'Apocalypse commence et termine avec cette affirmation « Je viens bientôt ». C'est l'essentiel. Alors, si vous permettez 2-3 minutes de théologie, la prophétie dans la Bible, ce qui est près, ce qui est lointain, c'est souvent imbriqué, télescopé, comme dans un seul événement. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une photo sur Mérin Ensemble, notre journal, où il y avait les appartements de Mérin et les Alpes, on aurait dit, droit derrière. On ne voyait pas le relief. Encore cette semaine, mercredi, c'était comme ça, comme si le Mont Blanc était vraiment tout près. Et dans les prophéties de la Bible, c'est un peu la même chose. Souvent, il n'y a pas de relief, de distance. On a l'impression d'un seul et unique événement. Comme exemple, on peut parler, quand Jésus parle de son retour en Matthieu 24, il y a la destruction de Jérusalem qu'il va évoquer, qui aura lieu une 40aine d'années après. Mais aussi, il y a la grande tribulation et l'antichrist final qui est là-dedans. Et on n'a pas toujours l'impression de distance. Le psaume 96, si vous avez remarqué, ça commence à annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les peuples. Et ça termine, il vient pour juger le monde. Pas de distance. L'événement historique, première venue, était situé avec le dénouement final, sa deuxième venue, comme fond d'écran pour ceux qui aiment l'informatique. Les deux étaient là, ensemble, mais on ne voyait pas la distance. Donc, tout le monde qui connaissait l'Ancien Testament, les prophéties, attendait un seul grand événement. Et pourtant, et nous pouvons dire de notre recul, il y avait des indices. Zacharie qui a dit, ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ésaïe a dit, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. C'est la fin du chapitre 52. Chapitre 53 commence. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Qui a cru à notre message? Il y avait des éléments pour éclairer le mystère tout au long de l'Ancien Testament. Abraham qui dit à Isaac, « Mais Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. D'abord le sacrifice, ensuite la venue glorieuse. » Et quand Étienne raconte, il retrace l'histoire de son peuple, il va dire, la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Mais tout ça n'était pas apparent à l'époque. Les prophètes, en fait, s'intéressaient peu à la chronologie. L'avenir était toujours perçu comme étant imminent, ce qui a fait que chaque génération, depuis, avec raison, a vécu dans l'attente de l'apparition de celui dont la venue est aussi certaine que celle de l'horreur. « Je viens bientôt ». C'est un peu, si vous excusez la comparaison, quand vous téléphonez à votre jeune qui exceptionnellement n'est pas rentré à l'heure convenue et il répond, je viens bientôt, j'arrive bientôt. Bientôt veut dire différentes choses à différentes personnes. Et dans la Bible, bientôt peut aussi vouloir dire soudain, ou de manière inattendue. Je viens bientôt, dit le Seigneur. La venue annoncée, l'étape insoupçonnée, et maintenant l'attente à renouveler. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous aujourd'hui? Nous sommes dans ce temps d'avant, de l'avant, où nous nous préparons, Alex l'a dit, à célébrer la première venue du roi Jésus. Mais heureusement qu'il y aura deux venues, deux étapes. Celui qui vient, pour revenir à notre chapitre de l'Apocalypse, qui est celui qui vient? Le verset 5 dit, il est celui qui nous aime, qui nous a aimés depuis toujours, qui nous a aimés au point que le Père l'a envoyé, non pas pour nous condamner, première venue, pas en juge, mais en sauveur. Non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Donc, c'est bien précisé dans le même verset. Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Sa première venue était là pour nous rendre libres. L'auteur des Hébreux dira, il est venu une première fois pour porter nos péchés. Il vient une deuxième fois en vue de notre salut. Deux venues. Mais dans la deuxième venue, sa gloire sera enfin dévoilée. Il verra ce retour visible du roi des rois. Au verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Jugé injustement la première fois, il revient comme le juste juge. Même ceux qui l'ont percé, toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Méprisé, humilié, abaissé, il sera acclamé comme celui qui est élevé, la plus haute placée. Ça donne du sens à la vie, n'est-ce pas? Nous sommes connus et aimés par celui qui est l'alpha et l'oméga, verset 8, le A, de A à Z de la création. Celui qui est l'origine de notre existence et qui en est l'aboutissement, l'objectif. Nous avons un avenir qui vaut la peine. Nous attendons la transformation de toute la création lors de sa venue. Tout sera restauré. Voilà notre attente. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ils n'avaient pas tort de s'attendre à venue majestueuse. Ils se sont seulement trompés de 2000 ans et quelques. Et nos ancêtres n'avaient sûrement pas tort non plus de s'y préparer. Et pour nous, le jour est beaucoup plus proche. Il est là. À la porte, il vient. Que celui qui vient dit « Veillez ». Vivez déjà les valeurs du royaume auquel vous appartenez. Priez, ne vous laissez pas séduire par tout ce qui brille autour de vous. Soyez prêts, car il n'y aura pas d'avant pour signaler sa deuxième venue. Oui, je viens bientôt. C'est le mot de la fin de toute la Bible. Amen.
Cette venue de Jésus, elle se résume bien dans un seul mot que je vous laisse, c'est Maranatha. Viens Seigneur Jésus, ou viens Seigneur. Et nous nous réjouissons de cette venue. Quelqu'un disait, nous aimons son retour. Comme on se réjouit de voir ou de revoir la personne qu'on a aimée depuis longtemps et qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Je vous invite à chanter un chant qui m'est très cher, musicalement, mais aussi pour des paroles très profondes, qui s'appelle « C'est Jésus seul ».
Pour cette discrétion incroyable de ta première venue. Que toi, le roi de l'univers, venais ainsi et qu'on pourrait te rejeter. Et pourtant, tu es venu révéler le Père. Te louons pour la grâce que tu t'es révélée dans nos cœurs et de ce que tu es avec nous maintenant et que nous pouvons aller avec toi dans les forces que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, nous prions Seigneur. Amen.
L'apôtre Paul nous encourage à faire tout pour la gloire de Dieu. Et puis on a parlé du retour de Jésus en gloire, et en même temps on a aussi parlé de sa venue dans une étable. Et puis une fois j'avais lu une réflexion, est-ce que cette étable c'était pas en fait une bénédiction qui était cachée? Parce que vous imaginez les bergers qui vont adorer Jésus dans une hôtellerie pleine de monde. Est-ce qu'en fait, c'était pas une mise à l'écart qui était une bénédiction cachée pour que Jésus déjà puisse recevoir la gloire qui lui était due? Et je me suis dit peut-être que des fois dans nos circonstances qui sont pas agréables, il peut y avoir aussi une bénédiction cachée. Alors, on va, avec l'offrande, on va la faire pour la gloire de Dieu. Et nous allons chanter le 79, à toi la gloire. Vous aurez remarqué qu'on a chanté tous des chants qui sont vieux comme nous, hein.
On va prendre...